Wellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Il n'assure qu'il n'est pas en campagne, mais d'évidence, Emmanuel Macron se projette vers l'après et s'amende sur le passé, bilan et perspective d'un président pas encore candidat, mais bien à l'offensive contre ses concurrents. Il n'y a pas de grand remplacement, dit-il. Théorie soutenue par l'invité du grand entretien ce matin.
Oui, aujourd'hui le candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, à notre micro avec Léa. Dans une bonne vingtaine de minutes, le standard est ouvert et vous attend 01 45 24 7000.
Y aura-t-il des trains pour le sud-est ce week-end? Les négociations continuent à la SNCF. En attendant, ce sera un TGV sur deux demain pour les premiers départs en vacances. Grosse déconvenue pour les voyageurs. Dans ce journal aussi, les EHPAD vont-ils de nouveau confiner leurs résidences? C'est la crainte du moment. Contre les pesticides qui nous imprègnent, Santé publique France nous conseille de manger bio et d'aérer. Une enquête sur les interdictions de stades, alors que Gérald Darmanin doit annoncer de nouvelles mesures contre la violence dans le football. Et 60 000 spectateurs attendus au Grand Bornand. C'est la Coupe du Monde de biathlon jusqu'à dimanche.
France Inter.
Évoquer les erreurs du passé pour se les faire pardonner, ces mots qui blessent. Emmanuel Macron ne les prononcerait plus aujourd'hui qu'il connaît mieux les Français. Un président bonifié par son quinquennat. Voilà pour l'image qu'il a voulu donner hier soir sur TF1. De quoi capitaliser pour la suite. Alors est-il candidat à sa réélection ?
Si votre question est, est-ce que vous vous projetez, vous avez de l'ambition pour le pays, les Françaises et les Français, au-delà du mois d'avril prochain, d'évidence. Mais au moment où je vous parle, je regarde simplement dans quel état est notre pays, bousculé par cette crise, et donc je me dois, dans un moment où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de haine, de ressentiment, prendre encore des décisions, peut-être difficiles en tout cas, passer ce cap de la cinquième vague. Oui, j'ai de l'ambition pour notre pays, l'envie de faire. Et il faut aussi, comme mon fort intérieur, in petto, je consolide voilà quelques éléments avant de vous donner une réponse sincère et ferme.
Emmanuel Macron et son ambition, elle ne faisait aucun doute hier soir, car on ne réforme pas un pays en 5 ans, dit-il. D'ailleurs, pour les retraites, si c'est lui, il fera différemment. Fini le régime unique, trop anxiogène, mais 3 régimes pour les fonctionnaires, les salariés et les indépendants. Et pas question de supprimer 150 000 fonctionnaires pour faire baisser la dette, comme le propose Valérie Pécresse. Car le président, pas candidat, a des choses à dire à ses adversaires. Maxence Lambrecq, hier soir, il a pris son temps pour répondre à Éric Zemmour.
J'ai regardé avant de venir vous rejoindre mon courrier.
Il sort d'une pochette la lettre d'une classe de CM1, CM2.
Ils ont écrit un texte pour Joséphine Baker, superbe. Sébastien, Mila, Sheikh Mansour, Faustine, Kenza, Daniela, Guillaume, Ryan, Emma.
Il ne prononce jamais son nom, mais rejette ainsi sa théorie de l'intégration par les prénoms.
Vous n'allez pas expliquer à plusieurs millions de nos compatriotes, le problème c'est vous. Ça, je n'y crois pas.
Voici son message aux Français d'ici et d'ailleurs.
Vous avez d'abord des devoirs. Si nous devenons une nation de citoyens individualistes qui pensent qu'ils ont avant tout des droits à tirer, peu de responsabilités, et que dès qu'il y a un problème, c'est l'autre, l'étranger, celui de telle ou telle religion, alors nous irons vers la guerre.
Face au candidat qui, je cite, exalte les ressentiments, il se veut le président pacificateur et lucide.
Je ne crois pas au grand remplacement, il n'est pas là. Ce qui est vrai, c'est que ces dernières décennies, nous n'avons pas bien intégré.
S'attaquer à Éric Zemmour sans offrir un boulevard à Valérie Pécresse.
Les frontières de l'Europe, ça a un sens. On doit les protéger et on doit casser ces réseaux de trafiquants. Mais on aura besoin de cette immigration de travail qui est limitée, choisie, qui est maîtrisé pour faire tourner notre économie.
Limité, choisi, maîtrisé, lui qui en 2017 ne croyait pas dans les quotas, s'y résout aujourd'hui.
Maxence Lambrecq, de ces 2 heures d'interview, on retiendra surtout le bilan des gilets jaunes au quoi qu'il en coûte. Peu de perspectives concrètes pour l'instant et un sujet à peine évoqué, le climat, ce qui a consterné l'écologiste Delphine Batho, porte-parole du candidat Jadot.
C'est-à-dire que la plus grave question angoissante en fait pour notre sécurité, pour l'avenir de l'humanité, avec des conséquences d'ores et déjà très concrètes, n'a été abordée par le président de la République sur 2 heures d'émission. Donc c'est quelque chose que l'histoire jugera sans doute très sévèrement. Pas un mot pour la révolte de la jeunesse sur le climat, pas un mot pour le vivant et les catastrophes qui se sont multipliées, par exemple, l'été dernier. Parce qu'il y a un quinquennat d'échec d'Emmanuel Macron, un non-respect de l'accord de Paris, une condamnation judiciaire pour inaction climatique dans l'affaire du siècle, donc certainement une volonté d'occulter cette question dérangeante, mais c'est très significatif.
Mais sur la crise sanitaire, enfin, Emmanuel Macron juge que la vaccination des 5-11 ans est souhaitable et pour tout le monde, dit-il. Il serait tout à fait possible de rendre le vaccin obligatoire, même si on y est quasiment, avec 90% de vaccinés chez les plus de 12 ans. Face à la puissante vague de Covid, un nouveau conseil de défense aura lieu vendredi pour voir comment accélérer encore la vaccination et renforcer les contrôles aux frontières. Presque 66 000 nouvelles contaminations hier, 50 000 par jour, en moyenne depuis une semaine, et près de 3 000 patients en réanimation. Le gouvernement en anticipe 4 000 pour les fêtes.
En attendant, il est 8h06, c'est déjà le branle-bas de combat, Florence, dans les maisons de retraite.
Pour protéger leurs résidents, certaines commencent à réduire les visites, voire à les supprimer. Attention, alerte l'association des directeurs d'établissements et les familles, il ne faudrait surtout pas reconfiner les EHPAD, Alice Cachaner.
Constater que des maisons de retraite ferment de nouveau leurs portes aux visiteurs, c'est tout simplement inacceptable pour Bernadette Ojardias du collectif EHPAD Famille 42.
On sent bien que la peur revient et que les leçons du passé n'ont pas été tirées. C'est-à-dire qu'actuellement, certaines directions qui interdisent les visites le matin, les EHPAD ont déjà annulé des goûters de Noël. On prend le risque à nouveau de voir nos résidents décéder de syndrome de glissement.
Pour le moment, ces restrictions de visite restent minoritaires dans le paysage des EHPAD. Environ 5% des établissements, d'après l'association des directeurs au service des personnes âgées. C'est peu, mais complètement injustifié, estime Éric Frégonat, directeur adjoint de l'ADEPA.
Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de décès dans les structures personnes âgées, ce qui prouve que le vaccin fonctionne. Et donc, ce sont des lieux très sécurisés. Et donc, on ne voit pas pourquoi cette population aurait des privations de liberté en la période.
Des décisions sans doute encouragées par les directives de certaines agences régionales de santé. L'ARS Nouvelle-Aquitaine a en effet appelé à renforcer le protocole de sécurité dans les EHPAD. De son côté, la ministre de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, assure qu'aucun confinement n'est prévu dans les EHPAD pour les fêtes de fin d'année.
Et hier, le doyen des Français est mort du Covid. Marcel Meiss avait 112 ans. Il vivait toujours chez lui avant d'être hospitalisé à Vienne, dans l'Isère. Ancien ambulancier, il transportait des résistants pendant la guerre. 50 000 voyageurs en rade demain, leur TGV pour le Sud-Est annulé le jour du début des vacances scolaires et on n'a pas encore les prévisions de trafic pour samedi et dimanche. Pas d'accord pour l'instant entre la direction de la SNCF et les syndicats qui réclament une prime Covid conséquente et des embauches. Seule l'UNSA a décidé de sortir de la grève. Alors côté voyageurs, Valentin Winato, on ronge son frein le plus souvent.
Quand on annonce la nouvelle à Franck ou à Thibault en partance pour Lyon, ville concernée par la grève, ils ne comprennent pas et craignent un peu pour les fêtes de fin d'année.
Franchement, je trouve ça un peu inacceptable. C'est pas le moment de faire ça. Comme par hasard, c'est tout le temps à Noël, ils rendent captifs les clients dans une période clé où les gens ont besoin d'aller en famille, etc. C'est très moyen.
C'est une période un peu charnière, à mon avis, pour eux, pour négocier. Mais en contrepartie, c'est le particulier qui est pris en otage sur ces négociations. Quoi.
De la colère et de l'incompréhension pour les uns, un peu plus de tolérance pour Julie. Elle comprend les revendications des cheminots, de meilleurs salaires et des recrutements.
S'ils sont pas assez nombreux, le travail peut pas être bien fait, on est à flux tendu et c'est mauvais pour les salariés. Je le prends assez bien quand il s'agit des mouvements de grève. Moi, c'est quelque chose que je tape pas sur les grévistes, en fait, je comprends.
Et puis, il y a les habitués des transports et des grèves, comme Christophe, qui préfère prendre ça avec humour. Moins de trains pour les fêtes de fin d'année, ce n'est pas forcément une si mauvaise nouvelle.
Ça m'arrange, je ne vois pas la belle famille.
La SNCF a bien pris la mesure de l'impact de cette grève sur ses voyageurs. 50 000 personnes touchées, rien que demain. L'entreprise va donc rembourser les billets de ses usagers, ce à quoi s'ajoute un bon d'achat de la valeur du billet, c'est-à-dire un dédommagement de 200%.
Les discussions ont repris hier soir entre la direction de la SNCF et la CGT, notamment pour tenter de sauver les départs de samedi et dimanche. Alors que ce jeudi est déjà une journée de grève dans les transports d'Île-de-France, trafic perturbé sur les lignes B, C, D et E du RER. La CGT et Sudrail réclament une augmentation générale. La bonne nouvelle australienne, après la mauvaise des sous-marins cet automne, la compagnie aérienne Qantas passe de Boeing à Airbus. Près de 300 avions commandés ou sur le point de l'être à l'avionneur européen pour renouveler sa flotte moyen courrier. Un super typhon aux Philippines, il s'appelle Rai, et vient de toucher terre. Il a obligé des dizaines de milliers de personnes à évacuer vers des refuges. Manger bio maintenant et aérer son logement. Conseil de Santé publique France pour moins s'exposer aux pesticides, car on en retrouve dans nos organismes, comme le mesure depuis des années une étude au long cours, dont les derniers résultats seront publiés aujourd'hui par Santé publique France. Alors nous sommes moins imprégnés qu'il y a quelques années, Véronique Julien, mais toujours positif aux produits chimiques dangereux.
On a testé en tout 2500 adultes et plus d'un millier d'enfants. On a prélevé chez eux urine, sang et mèches de cheveux. On leur a demandé quelles étaient leurs habitudes de vie, leur consommation alimentaire, leurs expositions professionnelles. C'était la première fois qu'on mesurait l'imprégnation chez les enfants. Chez les adultes, la précédente étude remontait à 2006-2007. Conclusion, les niveaux d'exposition mesurés chez les adultes ont baissé dans l'intervalle et nous placent à peu près au même niveau que les autres pays d'Europe et d'Amérique du Nord. En revanche, 50% de la population est encore imprégnée de substances interdites comme le lindane, prohibé en France depuis 1998. Il ne se dégrade pas rapidement. On peut aujourd'hui en retrouver sur les charpentes, car il servait notamment à traiter le bois. Les Français restent largement imprégnés aussi de pyréthrinoïdes qui ne sont pas interdits et qu'on utilise couramment comme insecticides, anti-acariens, anti-parasitaires, qu'on trouve notamment sur les colliers anti-puces des animaux domestiques. Santé publique France encourage d'ailleurs à éviter ou limiter ces usages. Elle conseille aussi de manger des produits issus de l'agriculture biologique. L'étude montre clairement en effet que ce choix limite les niveaux d'imprégnation.
Jean-Michel Aulas, privé de stade ou presque pour 5 matchs, le président de l'Olympique Lyonnais, sanctionné par la Ligue de foot hier soir pour son comportement lors du match OL-OM fin novembre. Un joueur marseillais avait reçu une bouteille sur la tête, mais Jean-Michel Aulas avait fait pression pour reprendre la rencontre.
Il est 8h11, la violence dans les stades en forte augmentation cette saison.
Et le football à la caisse justice, ça n'est pas sa vocation. Gérald Darmanin va donc faire des propositions ce matin pour faire mieux respecter les interdictions de stade ordonnées par les préfets ou les tribunaux, mais aussi par les clubs. On appelle ça des interdictions commerciales, abonnements annulés ou suspendus pour les supporters violents. Seulement voilà, à Géraldine Allot, ça n'est pas toujours très efficace.
Le 18 septembre dernier, c'est le derby Lens-Lille au stade Bollaert. À la mi-temps, Martial, c'est un prénom d'emprunt, envahit la pelouse avec une centaine d'autres ultras pour se frotter aux supporters lillois qui leur jettent des projectiles. Quelques jours plus tard, le Racing Club de Lens suspend l'abonnement de plusieurs dizaines de ses supporters, dont celui de Martial. Une mesure symbolique, mais pas forcément efficace.
Comme l'abonnement est désactivé, on ne peut pas se servir de son propre abonnement. Par contre, on peut rentrer avec une autre place qui est encore valide, ou on peut très bien prendre une place dans une autre tribune. Il n'y a pas de contrôle d'identité, c'est-à-dire que si aujourd'hui votre voisin qui va au stade ne peut pas aller au stade, vous redonne son abonnement à votre voisin est valide. Donc vous pouvez très bien rentrer au stade.
Car les stadiers ne sont pas habilités à contrôler les pièces d'identité. Pierre Barthélémy est l'avocat de l'Association nationale des supporters.
On est en train de, en quelque sorte, demander à des personnes privées de faire le travail de la justice ou de la police sans les moyens de la justice ou de la police. Et ça n'a aucun sens. On ne trouvera ça dans aucun autre pan de la société.
Le responsable sécurité d'un gros club de Ligue 1 nous dit d'ailleurs « Pour nous, les suspensions d'abonnement, c'est de l'affichage. On ne peut pas empêcher nos supporters d'entrer. » Tandis qu'un policier spécialisé lâche les fraudes, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense.
Les failles des interdictions de stade, enquête de Géraldine Allot à retrouver en longueur sur notre site franceinter.fr. Et pas de violence en bas des pistes de ski. Ambiance bon enfant chez les supporters. On en attend 60 000 au Grand Bornand à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche pour l'épreuve de biathlon de la Coupe du Monde annulée l'an dernier pour cause de Covid. C'est dire si cette fois les athlètes français l'attendent de pied ferme, qui vont pouvoir communier de nouveau avec leur public. Jérôme Val.
L'impatience d'Anaïs Bescon, la doyenne de l'équipe de France de biathlon, pense à ce rendez-vous depuis très longtemps.
J'en ai des frissons rien que d'y penser, c'est vrai, c'est ça le Grand Bornand. Et en plus, c'est pas les frissons que pour nous les Français, c'est pour tout le monde. Je sais que les athlètes étrangers apprécient venir en Coupe du Monde en France au Grand Bornand. Et ça pour moi, ça a beaucoup de valeur.
Cela fait 2 ans que la Coupe du Monde n'est pas venue en France. Et de l'avis général, le Grand Bornand, avec ses spectateurs très bruyants, est l'un des sites les plus prisés des athlètes. Avec un peu plus de pression pour les Français, reconnaît Quentin Fillon-Maillet, actuel 4e mondial.
Ça nous donne un peu plus de stress d'être ici à la maison, mais c'est aussi pour ça qu'on fait du biathlon. Les émotions sont largement décuplées quand t'as une atmosphère incroyable, et j'en suis sûr qu'elle sera là cette année.
Et forcément, à domicile, les tricolores ont des ambitions très élevées, à l'image de Fabien Claude.
Il y a 2 ans, c'est ma première participation, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. En 2 ans, mon statut a complètement évolué, mes ambitions ont évolué, mais en tout cas, performer au Grand Bornand, c'est sûr que c'est un objectif de carrière, donc pourquoi pas cette année. Ouais.
Il y a 2 ans, les Français avaient décroché 4 podiums au Grand Bornand, mais aucun titre. Ils ont 4 jours pour faire encore mieux. Le Grand Bornand, Jérôme Val, France Inter.
Enfin, pas un accro sur la route des Bleus du handball au championnat du monde. L'équipe de France féminine, qualifiée pour les demi-finales, elle a battu la Suède 31-26 hier soir et rencontrera le Danemark demain pour une place en finale.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Et Marie-Pierre, toujours un ciel gris ce matin au nord de la Loire.
Et oui Nicolas, l'anticyclone situé de l'Afrique du Nord aux îles britanniques nous protège des perturbations encore une semaine, mais les grisailles restent tenaces avec des brouillards qui sont denses encore de la Bretagne à la Vendée. En revanche, vers le nord-est, on a un léger vent d'est qui se lève, qui va favoriser la dissipation des brouillards en matinée et même permettre le retour des éclaircies en Alsace. Et vous allez voir le soleil se lever sur la moitié sud, des reliefs alpins aux Charentes, aux Pyrénées, à la Méditerranée, avec des brouillards autour encore un de la Garonne et les températures sont plus basses au sud de la Loire qu'au nord, entre les moins 4 relevés à Avignon, mais 10 à Dunkerque, moins 3 en Haute-Loire, mais 8 à Paris et à Lille.
Et un peu plus d'éclaircies cet après-midi.
Oui, sur les régions du nord-est avec le vent d'est donc qui se lève, va favoriser la dissipation des grisailles de la Lorraine à l'Alsace à la Bourgogne, mais le ciel va rester gris, toujours sur la moitié nord, excepté encore en Bretagne, aux Charentes, au Pays Basque, où les éclaircies seront de retour et le soleil brillera au sud de la Loire, mais encore avec un mai. Des grisailles autour de la Garonne. Il fera 4 à Lyon, 6 à Dijon, mais 14 à Aurillac, 8 à Metz, 10 à Paris et à Nantes, 11 à Bordeaux, 15 à Toulon et 17 à Bastia.
Et voilà pour cette météo très complète. Merci Marie-Pierre et à tout à l'heure. France Inter, 8h16.